I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Hakim Djemili, qui est humoriste de son métier, que vous avez peut-être découvert grâce au Whoop sur YouTube ou par exemple chez Touche pas à mon poste à la télévision ou encore plus récemment chez Click TV sur Canal+. On s'est retrouvé dans son théâtre 2 heures avant le début du show, en plein micmac autour du couvre-feu. On parle ensemble de son parcours, depuis ses ambitions de devenir joueur de foot pro, jusqu'aux blessures qui l'ont incité à arrêter, et comment il a réussi à rebondir alors qu'il n'existait que par le foot. Un grand merci à Hakim de s'être livré de cette façon. J'espère que l'interview vous plaira. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Hakim Djemili.
C'est un fer à repasser ? Ouais, hein. Pourquoi ? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fout ici ?
C'est le décor qu'il y a normalement quand les rideaux sont pas tirés
ou... J'en ai bien l'impression.
Bah, je sais pas, c'est toi qui es dans les coulisses d'habitude.
Bah ouais, mais je vois pas, c'est toujours dans le noir.
Ah oui.
C'est la première fois que je vois comme ça là.
Bon, on est au théâtre.
Ouais, on est au théâtre.
On est à la Comédie de Paris.
Tout à fait, monsieur.
On est avec Hakim Djemili, salut.
Salut, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va, on fait avec. Hein.
C'est un peu le beans là parce que c'est le premier soir où ouais. On sait pas trop si tu joues à 19h ou à 20h.
Je te jure, c'est ça, je sais pas, même moi je sais plus. Peut-être que je vais pas jouer finalement, je sais pas. Non, ouais, c'est un peu, ouais, on m'a dit 19h, finalement on me dit en fait tu peux 20h, mais finalement demain ça sera quand même 19h et finalement je sais pas. Bon, ce soir c'est 20h.
Et après, c'est 19h.
Après, c'est 19h.
Parce que pour rentrer dans le couvre-feu, il faut que les gens y rentrent.
Ah ouais, il faut leur laisser le temps de rentrer chez eux, les pauvres, tu vois. Parce que je crois qu'on va pas avoir le droit à cette fameuse dérogation, là, dont on parlait depuis quelques jours.
Ah oui, avec les tickets et tout, là.
Ouais,
pour...
donc je crois que c'est un peu cuit. D'après Monsieur Castex.
Ok.
Je crois que c'est comme ça qu'il se nomme.
Oui.
Et donc, j'ai l'impression que, ouais, on est obligé de commencer à 19h, on finit à 20h, on va jouer une heure pile. Comme ça, les gens ont le temps de rentrer chez eux, quoi, tu vois. Après, c'est que je vais même pas avoir le temps de prendre des photos avec les gens, c'est relou, quoi, tu vois, c'est dommage. Ouais. Voilà, bon, c'est parti du jeu, c'est comme ça. Bon, je vais quand même essayer de prendre des photos, je sortirai vite, et puis basta.
Ah ouais, faut s'adapter, faut être un peu souple. C'est un peu la période, là.
Ah là, de toute façon, t'es obligé d'être souple.
Faut que tu sois flexible.
Ah là, t'es obligé d'être flexible. Si tu
t'as fait les ischios, là.
Ah là, les ischios, le quadriceps, ça. Là, faut s'étirer, faut boire de l'eau. Il faut faire ces tests. Non, ça craint, ouais, c'est une période qui est pas facile, mais ça va passer, j'espère.
Comment t'as vécu, toi, le confinement ?
Très très bien.
Ouais,
bien sûr. Très très bien parce qu'avec ma femme, ça nous a permis de nous retrouver, ouais. Tu vois, parce que elle joue, elle tourne beaucoup aussi, puis du coup, on se voyait pas forcément tout le temps, le ouais. soir, etc. Puis là, ça nous a fait beaucoup beaucoup de bien nous.
J'allais te dire, est-ce que tu avais déjà passé autant de temps d'affilée avec ta femme ?
Franchement, pas autant comme ça non. Comme ça non, c'est un vrai test hein, ouais. En vrai hein, c'est vrai. Je pense qu'on devrait tous faire ça avant de s'engager dans une relation.
Mais c'est clair.
Hein, c'est un bon test pour savoir comment ça se passait. Bah écoute, nous c'était super, c'est conclu de manière assez positive, très très content.
OK.
Elle espère un reconfinement, elle a rien compris. Mais non, on a kiffé nous,
ça c'est elle très bien. Elle espère un reconfinement parce qu'elle veut plus taffer, c'est ça ?
Non, parce qu'elle a kiffé les ouais. moments qu'on passait quoi, tu vois, c'était mortel. On était là entre nous, on pouvait discuter d'un peu de tout, tu vois. On s'est pas redécouvert parce qu'on connaissait déjà tout l'un de l'autre. On n'a aucun secret l'un pour l'autre. Mais là, c'était merveilleux, tu vois. C'était... Non, ça m'a fait du bien d'avoir moi et ma petite femme, mon petit chat. C'était super.
Je remets un peu de contexte si vous ne l'avez pas. Mais en gros, ta femme, t'en parles beaucoup dans ton spectacle.
Ouais,
c'est
ouais.
un secret.
Ouais,
mais ta femme, c'est Fadili Camara.
Tout à fait.
Elle a été ma première invitée de tous les temps dans mon podcast.
Ah ouais, bah j'espère ouais. que je serai le dernier alors. Hein, ça fera une bonne conclusion.
S'il te plaît. Je vais choper le Covid et je vais mourir. Voilà, désolé, c'est le dernier épisode de ce podcast.
Ouais, allez, bonne soirée à tous.
C'était sympa, merci.
Super, je t'en prie, mec. Ah, je t'ai fait un bon souhait.
On a beaucoup parlé de Game of Thrones avec elle.
Ouais.
C'était
ouais.
sa grande passion.
Elle adore ça.
Ouais.
Elle adore ça. Moi, j'ai complètement pas adhéré du tout.
Ah, toi, t'es passé à côté.
Non, je suis passé à côté. Ouais. Elle a essayé de me foutre dedans quelques fois, mais j'ai pas réussi.
Ok.
Ah ouais, le premier épisode, j'ai vu un frère faire l'amour à sa sœur.
Ah oui.
Je trouvais ça un peu chelou. J'ai dit stop, je veux pas continuer ce truc là, c'est trop morbide. Et non, mais il paraît que c'est super, hein, tu vois.
Bah,
mais
une fois que t'as passé les sœurs qui couchent avec
ouais. enfin, les frères.
Les frères, ouais, les ouais. gens qui se font décapiter la gueule, etc. En fait, ouais, c'est sympa, c'est bon enfant.
Non, mais je sais que c'est mortel, je sais que c'est mortel. Ça, par contre, j'ai absolument aucun doute, parce que bah, mes potes, ma femme, tout le monde est fan de cette série de ouf, hein, tu vois. Mais je suis peut-être le seul con qui n'est pas regardé.
Alors, moi non plus, j'ai pas regardé.
Ah, bah ça va. Alors.
Moi, j'ai suivi, j'ai regardé juste la dernière saison. Ouais. Et avant ça, j'ai regardé un grand résumé, tu sais. Et bah, ouais, ça m'a suffi.
Bah en vrai, ça suffit.
Ça m'a suffi de ouf.
Il y a quoi, il y a 8 saisons en plus,
ouais,
c'est trop
c'est long.
Attends, on n'a pas le temps.
Puis c'est pas terrible.
Bah écoute, moi la vérité, j'ai essayé, j'ai regardé un épisode, j'ai regardé la fin de la saison avec Fadili du coup, mais.
Ah ouais.
Ouais, mais j'ai pas tout capté moi. Jon Snow et tout. Il était mort, il est pas mort, j'ai pas capté.
Puis il baise, enfin, spoiler, hein, mais il baisse sa cousine ou je sais pas quoi.
Bah, c'est des trucs comme ça, bah, c'est que ça, mec. Oh. Bah, tu me dis que c'était fini au début, c'est pas... il continue
non, ça continue après.
Ah bah d'accord, super.
On sait pas trop, mais.
Ouais, c'est un délire un peu.
Putain, pardon pour les fans, peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Mais...
Ouais, non, mais même moi, je tiens à m'excuser parce que je sais qu'il y a des vrais fans et je respecte tout à fait cette fanitude.
Hakim, on est ici pour parler de ta vie, pas pour parler de Game of Thrones. Ouais, on va parler un peu de ta femme parce qu'elle fait beaucoup partie de ta life.
Ah, 100%, bien sûr.
T'as pas le choix, apparemment.
Ah, ouais, pas le choix. Non, c'est comme ça. Non, même, oui, parce que c'est elle qui m'entoure tous les jours. Donc forcément, les premières inspirations qui te viennent, c'est concernant bah, les gens autour de toi. Quoi,
bah
tu vois. Ouais. Pour le coup, c'est ma femme. Donc ouais, bah, je parle beaucoup d'elle, ouais, surtout dans le spectacle.
Dans le spectacle, tu parles pas mal d'elle.
Ouais, ouais, c'est vrai.
La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Hakim quand il avait 7-8 ans?
Ou quand j'avais 7-8 piges. Alors,
CE1, CE2, tu vois.
CE1, bah, j'étais très teubé, putain.
Ça veut dire quoi?
C'est très teubé, dans le sens où déjà, j'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs. Parce que je me rappelle quand même certaines choses. C'est qu'en fait, j'étais plutôt critique à l'école. Ça se passait très, 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 très mal.
Critique sur le système scolaire, tu veux dire?
Non, je comprenais rien.
Ah, ok. Critique dans mon sens, pas
mon niveau. Mon niveau était dans un état critique. Ah ouais, il avait le Covid, mon niveau, à l'époque. Non, j'étais horrible. Hein, je comprenais rien. Je me rappelle que les maîtres, c'est comme ça qu'on les appelait, les maîtresses, convoquaient souvent mes parents parce qu'ils se demandaient si j'étais pas autiste ou, tu vois. Parce que vraiment, je pigeais vraiment, vraiment, vraiment rien, quoi. Et puis, en fait, un jour, j'ai commencé quand même à me remettre un peu au taf. Et puis, c'est là que c'est venu. Mais ouais, j'étais un peu dans ma bulle, tu vois. Ça veut dire que j'étais dans mon truc, dans mon délire, moi, quoi.
Qu'est-ce qui faisait que t'accrochais pas à l'école, ça te...
Qu'est-ce qui a fait que j'accrochais pas
que t'accrochais pas à l'école? Enfin, c'était l'aspect juste le travail ou l'aspect aussi les potes, le...
Non, c'est que vraiment j'étais vraiment dans ma petite bulle, quoi, dans le sens où ouais, je comprenais pas grand-chose. Hein, je vais être honnête, franchement, j'étais dans mon truc. Je sais même pas à quoi je m'intéressais forcément. J'aimais bien jouer dehors avec mes potes. J'aimais bien partir en vacances en Tunisie avec les parents.
Ouais.
Mais ouais, à l'école, j'étais pas du tout une lumière. J'étais vraiment dernier de la classe, quoi, tu vois.
T'intéressais pas? T'arrivais pas
non,
à être intéressé?
Je comprenais pas. Je vais être honnête, je comprenais pas, franchement. Hein. J'ai eu un déclic que tardivement dans ma scolarité. Mais après, mes parents m'ont mis quand même des coups de pression pour que je me bouge un petit peu le cul, parce qu'il se doutait, attends, il est quand même pas con, le petit, quand même, qu'est-ce qui se passe, ça, tu vois? Ouais, non, j'avais vraiment du mal, à m'adapter à l'école, je me rappelle, j'étais souvent solo, souvent dans mon coin, tu vois, non pas que j'aimais pas les gens, mais c'est juste que j'avais vraiment, vraiment, vraiment du mal avec tout ça, là.
Ça me faisait peur aussi. Connecter avec les gens, c'est ça?
Ouais, j'arrivais pas à me connecter avec les cours, surtout, je comprenais rien, les pronoms personnels, les trucs. Je comprenais que chi. Ouais, non, en fait, j'ai l'impression que je suis né à 10, 11 ans, quoi, tu vois.
Okay.
C'est-à-dire que la vérité, c'est que j'ai eu un passage à vide de ouf, de la maternelle jusqu'à la fin de primaire, je pense. Et ensuite, à partir du collège, quand le foot est arrivé dans ma vie, quand j'ai un peu quitté la maison aussi, je suis parti assez tôt pour le foot, et ben là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai commencé un peu à vivre un peu plus. Mais avant, ouais, c'est vrai que je me rappelle, c'était assez catastrophique, quoi.
J'ai l'impression que le foot, il a une grande place dans ton existence.
Oui, plus maintenant, mais, non, mais à l'époque.
Dans ta construction même, hein, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Quand est-ce que tu démarres le foot?
Ah, très tôt, j'avais genre 6 ans, 7 ans, quoi.
Ouais.
6 ans, 7 ans, mais c'est le seul truc auquel je m'intéressais vraiment, quoi, tu vois.
Ouais.
Je jouais au foot avec mes potes ou en club, je jouais dans un petit club à l'époque, à Célestat, dans ma ville. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au foot, quoi. Mais c'est le seul truc qui m'intéressait.
Et là, t'as cliqué parce que t'avais l'air d'être très bon. Ils t'ont surpassé,
ouais,
machin.
Quand j'étais plus jeune, ouais, j'étais bon, j'avais un bon petit niveau, ouais, bien sûr. Mais comme beaucoup de jeunes, tu vois, qui sont bons à leur âge et qui ensuite grandissent, et selon la manière dont tu grandis, vite ou pas, bah, t'as plus de mal à sauter des caps, à passer des niveaux, etc. Donc c'est beaucoup une histoire de croissance, le foot, c'est beaucoup une histoire de chance, c'est beaucoup une histoire de motivation et d'amour pour le foot, je pense aussi.
Et toi, d'entrée, ça a été... Tu le racontes d'ailleurs dans ton spectacle, c'est que tu viens de l'Est, tu disais tout à l'heure à Célestat, près de Strasbourg.
Exact.
Et que tu as grandi dans une cité.
Ouais.
Et tu dis d'ailleurs dans le spectacle, tu as une punchline dans le spectacle où tu dis, j'ai eu les deux, quoi. Non seulement tu as grandi dans la cité, mais en plus...
Ouais, c'est une cité à la campagne.
La cité à la campagne.
Exactement, j'ai grandi dans une cité à la campagne, ouais, c'est une ville qui s'appelle Célestat. Voilà, c'est une petite ville pas loin de Strasbourg, tu vois, assez sympathique, tu vois. Bon, en étant jeune, franchement, tu te fais quand même pas mal chier. Ouais. Tu vois, on n'avait pas grand-chose à faire, forcément, tu vois. Pour te dire, moi, le City Stade qu'il y a dans toutes les cités aujourd'hui en France, moi, il est arrivé quand j'avais 19 ans, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc bon, c'était un peu trop tard, quoi, les gars. Donc oui, on se faisait chier, mais bon, on avait la forêt à côté de ça, on avait de la verdure, de quoi changer d'air, quoi, tu vois. Donc c'était pas une cité un peu ghettoisée de ouf comme on a, tu vois, là en ce moment, comme on peut voir dans les banlieues parisiennes ou même alsaciennes maintenant, parce que c'est en train de devenir pareil. Mais je veux dire, tu vois, voilà, on n'était pas entre guillemets ghettoisé au point de devenir fou, de ne pas savoir quoi faire de ta journée. Quoi qu'il arrive, nous, on a quand même connu les balades, tu vois. On avait la forêt vraiment derrière nous, on avait la rivière juste derrière nous. Enfin, ça va, de quoi avoir une enfance mi-heureuse, mi-caïra, tu vois, voilà, c'est ça, le truc.
Ok, et pour revenir au foot, là tu racontes que autant t'as du mal à l'école, autant le foot, ça a l'air d'être... t'as l'air d'avoir eu le déclic tout de suite, quoi.
Ouais, bah écoute, c'est le truc qui me sortait un peu de...
Qui me sortait
un peu de tout.
Ouais.
Ouais, je me faisais chier. En fait, dans ma vie, je me suis beaucoup fait chier, moi.
Ok.
Tu vois, je me suis beaucoup ennuyé. Et aujourd'hui encore, hein.
Aujourd'hui,
dans ma vie de manière globale, j'essaie toujours de trouver des solutions pour tuer l'ennui. L'ennui a toujours été un ennemi de ouf. Mais bon, avec le temps, plus je grandis, plus je vieillis, je me rends compte que parfois, en fait, non, il faut savoir le saisir, en fait, l'ennui, et puis en faire quelque chose de positif, tu vois. Donc oui, moi, j'ai beaucoup souffert de l'ennui, parce qu'en fait, déjà, on n'est que deux. Hein, ma petite sœur et moi, on est deux. Avec mes parents, on était quatre, quoi. Ma petite sœur était beaucoup dans ses bouquins à l'époque. Elle était beaucoup, tu sais, beaucoup travaillé à l'école. Elle et moi, par contre, à l'école, c'est complètement différent.
Ouais.
Tu vois, du coup, je me faisais chier. J'étais beaucoup seul, quoi. Tu vois, j'étais beaucoup seul. En vrai de vrai, mes parents sont très bien occupés de moi, ma famille, mes oncles, etc. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup, beaucoup seul.
Et tu parles très peu de à quel point t'étais. Est-ce que t'étais déjà marrant à l'époque? Est-ce que t'étais déjà un petit peu le. Parce que t'as l'air d'être vraiment hyper. En retrait à l'école, alors que tu sais, t'as d'autres humoristes qui faisaient les cons à l'école,
ouais, vrai,
qui amusaient un peu la galerie. T'étais pas vraiment comme ça, toi, à l'époque ?
Écoute, pour te dire les choses de manière honnête, alors oui, effectivement, j'étais en retrait, j'ai pas envie de faire le mec, ouais, moi j'étais le clown de la classe, non, c'est pas forcément vrai. Par contre, c'est vrai que à la fin de la primaire, ma maîtresse, elle s'appelait Madame Sichler, je me rappelle encore très bien.
Bonjour à elle.
Bonjour à elle, Madame Cadula aussi, bonjour à elle aussi, c'est des maîtresses qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'en fait, chaque vendredi avant le week-end, quoi, donc après les cours, elle me laissait en fait aller devant la classe et présenter soit une chanson, soit un sketch.
Comme ça.
Comme ça, ouais.
Le seul de la classe.
Ouais. J'avais le droit à ça tous les vendredis. Bah, après, je lui avais demandé aussi. Franchement, ils m'ont beaucoup aidé, ces gens-là. Ils m'ont dit, vas-y, de toute façon, au moins, autant laisser s'exprimer sur un truc, vu qu'ils parlent jamais. Donc, ça me faisait du bien. Du coup, ça m'a permis de me rapprocher quand même de certains élèves. Du coup, j'ai eu des potes et tout, etc. C'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
Ok.
Donc ouais, c'est ces deux maîtresses-là qui m'ont mis...
Et c'est toi qui allais dire « Salut, je peux présenter un truc ?»
Ouais, parce qu'en fait, et du coup, elles étaient trop contentes que je prenne l'initiative de faire quelque chose, quoi, parce que je répondais à aucune question, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, moi, ça. C'était en quelque sorte mes premiers cours de théâtre, quoi.
Ouais, j'imagine.
Donc ouais, c'était ça, hein. Mais après, bon, c'était le temps d'une année ou deux scolaire, quoi, tu vois, en CM1, CM2. Puis après, au collège, tu montes pas sur scène, hein. Au collège, tu restes tranquille. Non, voilà, quoi, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais.
On reparlera un petit peu après de... Parce que j'ai un peu l'impression que tu racontais dans une interview que tu t'étais beaucoup adapté jusqu'à... Tu racontais que le hoop t'avait vraiment permis d'être qui t'étais, en fait.
C'est
intéressant, cette histoire.
Bah, tu sais, j'ai passé beaucoup d'années dans ma vie à chercher qui j'étais, tu vois. C'est difficile de grandir avec... tu grandis le cul entre plusieurs chaises. Mm-hmm. Pas deux chaises, mais plusieurs chaises. Dans le sens où, tu sais que t'es tunisien. Ouais, t'as compris que t'es arabe au bout d'un moment. Mais t'es en France. Tu dis, je suis français et tunisien, d'accord, mais là, je suis qui vraiment, tu vois? Donc avec, comment est-ce que je dois me comporter? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir vraiment, tu vois? Donc tu te cherches. Ouais, moi pendant très longtemps j'étais pas moi-même, ça j'en suis pleinement conscient. Déjà le foot m'a apporté des choses un peu négatives dans ma vie, pas que positives, bon d'ailleurs plus négatives que positives je pense.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, dans le sens où déjà j'ai été beaucoup déçu de pas réussir à faire quelque chose de professionnel entre guillemets, mais comme beaucoup de gens évidemment, sauf que moi à l'époque j'étais vraiment très sensible à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça m'a tué un peu psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris une mauvaise habitude à l'époque. Et c'est un truc, ça c'est pour le coup, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux jeunes qui essayent de s'en sortir ou quoi dans la vie. Mais en fait, avec le foot, j'ai eu l'habitude d'exister grâce au foot. C'est-à-dire qu'en fait, les gens m'aimaient bien parce que je jouais bien au foot. Tu vois? Et du coup, entre guillemets, j'avais réussi à acquérir un certain respect de mes camarades, d'autres gens, etc., etc. Parce que j'étais un bon joueur de foot. Et les gens venaient me parler beaucoup par rapport à ça. Et donc moi, ça me faisait me sentir m'exister, tu vois, donc j'étais heureux en fait. J'ai dit, putain, ouais, je suis quelqu'un, tu vois, mais c'est horrible de penser comme ça, tu sais, avec le temps. Bon, moi, je l'admets, je pense que c'est en admettant ce genre de choses que les gens peuvent évoluer, mais après, j'ai pas la prétention d'aider qui que ce soit, mais je raconte juste mon expérience personnelle. Donc, le foot, quand ça s'est arrêté, quand j'ai su que c'était fini, parce qu'à un moment donné, il fallait que je m'en rende compte.
Alors attends, ça s'est arrêté pour expliquer aux gens, mais parce qu'ils n'ont pas toute l'histoire, mais tu t'es pété les... Enfin,
oui,
tu t'es
alors,
blessé
attention.
Plusieurs fois de
alors,
façon...
Ça, c'est... Oui, je me suis blessé plusieurs fois, c'est vrai que je me suis blessé plusieurs fois, souvent seul, sans forcément me faire tacler quoi que ce soit, souvent très seul, donc je me posais des questions, je me disais, mais comment ça se fait que je me blesse seul, etc., etc. Parce à mon avis, c'était un manque de confiance, ou tout simplement de la poisse, hein, ça peut arriver. Oui, après, j'ai une grosse blessure. Ils sont les ligaments croisés, ça arrive à tout le monde. Sauf que les ligaments croisés, contrairement à ce que les gens peuvent te raconter, c'est pas une blessure dont tu ne te remets pas. Oui. Tout le monde se remet des ligaments croisés. Oui. Tous les plus grands footballeurs du monde ont fait les ligaments croisés. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fini champion du monde ou quoi que ce soit. Non, le problème, c'est que les ligaments croisés, en fait, si tu veux, ça sonne un peu le glas de la fin de carrière, dans le sens où j'étais jeune. Psychologiquement, j'étais pas prêt à arrêter le foot un an. J'avais peur, j'avais mal. Quand je suis revenu m'entraîner, je sentais que j'étais plus du tout au niveau. Je sentais que c'était pas bon ce que je faisais. Je sentais que les gens me faisaient plus confiance. Et c'est là, en fait, que j'ai perdu. C'est à ce moment-là que j'ai perdu. Parce que mentalement, j'étais pas du tout prêt à un échec.
T'avais peur de te reblesser?
J'avais peur de me reblesser. J'avais peur de pas être à la hauteur. Voilà.
Ça te faisait chier aussi, peut-être, de redescendre d'un niveau et de
J'en étais conscient. Je savais qu'il fallait que je repasse plus ou moins par la case départ pour revenir à un haut niveau, mais je savais pas que c'était autant de travail et autant d'acharnement, tu vois. Et ouais, j'avais peur, j'avais mal, la rééducation, tu sais, avec la peur, du coup je l'ai ça s'est pas très bien remis. Là encore aujourd'hui, j'ai encore mal au genou, tu vois, pour te dire.
Ah ouais.
Ouais, donc c'est moi qui ai déconné, tu vois. C'est juste que mentalement, j'étais nul en fait, tu vois. J'étais pas, mais là, aujourd'hui encore, je pense, tu vois, mais ça va beaucoup mieux, ça m'a servi d'expérience en tout cas pour la suite évidemment. Mais c'est vrai que donc le foot m'a permis d'exister.
On t'a sans doute attends, juste pour revenir sur ta blessure, ta rééducation, mais on t'a sans doute peut-être pas comme tu dis bien soigné physiquement, mais tu aurais peut-être eu besoin aussi d'un coup de main psychologique quoi.
En vrai, ouais.
D'un soutien, ouais.
En vrai, ouais, j'ai eu des potes qui m'ont soutenu, ils sont venus me voir à l'hôpital, mes parents qui étaient avec moi, ben mes parents, les pauvres, putain, ils se sont sacrifiés, même ma petite sœur compris, ils se sont sacrifiés pour moi au niveau du foot, etc., etc., etc.
Oui, parce que t'es allé loin, enfin, t'as joué en équipe nationale tunisienne quand t'étais jeune.
Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais, donc ils croyaient en moi aussi, quoi, tu vois, et puis ils savaient que j'aimais que ça, donc effectivement, ils ont tout donné, mes parents, ils ont tout donné. Donc oui, quand ça s'est fini, je me suis dit, putain, mais en fait, là, je vais décevoir tout le monde, quoi. Je me suis déçu moi-même, mais j'ai déçu tout mon entourage, tous mes proches, même mes potes du quartier, les grands du quartier, tout le monde comptait sur moi, tu vois. Donc, à l'époque, j'avais une espèce de, comment t'appelles ça, de pression.
Une pression, ouais.
De pression, tu vois, qu'un gosse de 16 piges n'a pas à avoir sur les épaules, tu vois. Mais en vrai, c'est moi qui me mettais cette pression, tout ça, personne ne m'a mis la pression. Moi, c'était des jeux qu'ils faisaient avec moi. Mais ouais, en tout cas, ça m'a cassé complètement mon mental. J'ai jamais réussi à revenir à haut niveau. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, Hakim, arrête. Ça sert à rien de continuer là. Et le foot, ça va rester. Et du coup, le foot, ça m'a dégoûté pendant très longtemps. J'avais même plus envie de jouer, tu vois. J'ai putain, en fait, c'est fini. En fait, c'est fini. J'ai essayé de revenir. Attention, parce qu'à un moment donné, j'ai eu quand même un revirement de situation dans ma tête. Je me dis, attends, ça va, regarde, il y a encore des actions sur lesquelles t'es encore capable de. Vas-y, donne-toi à fond, mec. En fait, c'était impossible. C'était parce que j'avais pris trop de retard physiquement et tout. J'avais pris du poids. J'étais, voilà, c'était mort. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, j'arrête. Je vais pas gâcher mon temps comme ça, parce qu'à un moment donné, c'était plus forcément un plaisir, le foot, hein. À un moment donné, ça devenait vraiment un travail professionnel, hein. Ça veut dire que t'allais pour devenir pro, quoi.
Ouais, bien sûr.
Je me levais les matins, c'était pour aller à l'entraînement, à fond. Le soir, on avait encore entraînement. Le week-end, on avait des matchs. Il fallait toujours être le meilleur. Donc, tu vois, au bout d'un moment, j'avais plus la force physique, malheureusement. J'avais plus la force mentale non plus de tenir. Le foot s'est arrêté.
18 ans, c'est ça, à peu près, tu dis?
18 ans, 19 ans, ouais.
Ouais.
Ouais, 18 ans, 19 ans, j'ai arrêté. Un peu avant 19 ans, parce que après, je suis parti au Canada. Mais avant 18 ans, 19 ans, j'ai arrêté complètement.
Et tu disais que le foot, c'était un peu le truc sur lequel tu t'étais reposé pour exister, en fait, c'est ça?
Malheureusement, ouais. Malheureusement. Mais c'est horrible d'avoir cette mentalité-là. Cette mentalité d'à tout prix vouloir exister. Là, si je pouvais changer les choses, je le ferais. C'est pas comme ça du tout que je penserais, tu vois. C'est horrible parce que, malheureusement, on vit dans une société où, tu vois, les gens sont adulés uniquement quand ils font des choses, tu sais, publiques, entre guillemets. Donc, j'avais envie, malheureusement, je rêvais. À l'époque, hein, je rêvais de devenir quelqu'un, quoi. Tu vois, d'être une célébrité ou d'être, tu vois, j'avais envie de ce truc-là. Bon, aujourd'hui, évidemment, plus du tout. Hein.
Mais pourtant.
Mais tu vois. Mais c'est mauvais. C'est mauvais comme délire.
Mais même au-delà de ça, je pense que c'était aussi une manière pour toi d'exister auprès, tu disais, de tes parents, de tes amis, de la cité, etc.
Les gens me considéraient vraiment. Je me sentais important. Mais c'est horrible. C'est horrible c'est horrible d'aimer ça. Tu vois, ça c'est un sentiment de ça peut que te mener dans de la merde, ça. Je suis désolé d'employer des mots pareils, mais c'est vrai, tu vois, parce que après, en fait, le problème qui se pose ensuite, quand tu n'existes plus par rapport au foot, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens? Et à un moment donné, j'étais devenu un petit mytho, c'est-à-dire que je mentais aux gens. C'était pas des mensonges de fou, mais c'était des mensonges pour dire vas-y, moi aussi je suis quelqu'un, j'existe, quoi, tu vois. Et c'est pas bon parce que tu rentres dans un délire où tu commences à faire des mensonges un petit peu à tout le monde, tu commences à te mentir à toi-même. C'est ça le plus dur, en fait, c'est quand tu te mens à toi-même. Parce que le mensonge aux gens, ça va te faire du mal à toi, hein, au final. Hein. Au final, c'est toi qui perds, hein, tu vois. Mais se mentir à soi-même, je pense que ça a été le pire. Et en fait, les gens parlent souvent, quand on parle de petits mythos, etc., on parle souvent de maladies psychologiques. Mais ce n'est pas de la maladie psychologique. C'est un problème que tu dois régler entre toi et toi. Et ce problème-là, tu le règles uniquement quand les gens autour de toi sont bien intentionnés et qu'ils se rendent compte aussi qu'il faut t'aider. Et qu'à un moment donné, frère, il faut... Mais c'est avant tout un problème entre toi et toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu te poses devant ton miroir, tu dis « Écoute là, frérot, si tu veux faire quelque chose de ta vie, il va falloir que tu changes de manière très sérieuse. » En fait, je me comportais avec des gens, on va dire, tu sais, qui n'étaient pas forcément de ma communauté ou quoi que ce soit. Et j'essayais d'être comme eux, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'allais dans une soirée, je faisais semblant de boire de l'alcool, tu vois. Ouais. Je faisais, alors que je boirais pas, j'ai jamais bu de ma vie, moi, tu vois. Je faisais semblant, j'ai jamais bu de ma vie, mais vraiment jamais, quoi.
Et tu faisais comment? Est-ce que tu faisais ce fameux sketch, tu faisais semblant de boire et tu jetais le.
Ouais,
le
limite, truc. Hein. J'étais limite comme ça, tu vois. Mais genre, je me donnais un style, genre, j'étais pas vraiment moi, quoi, tu vois. Je faisais le mec, ouais. C'est parce qu'après, c'est quand j'ai commencé le cours Florent, surtout, tu vois. Je suis arrivé dans un truc où j'étais pas moi-même. Je regrette fortement cette époque.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Qu'est-ce qui t'a mené au cours Florent?
Le hasard, en vrai, de vrai.
Ah ouais?
Complètement.
Non.
Je te jure, complètement.
Que ça veut dire quoi?
En fait,
un jour, tu te lèves et tu te dis, tiens, je vais m'inscrire au cours Florent.
Je vais t'expliquer. Franchement, c'est quasiment ça. En fait, si tu veux, un jour... moi, j'habitais à Lyon. À un moment donné, j'étais parti faire parce que j'en avais marre de Strasbourg. J'en pouvais plus de rester là-bas parce que j'avais eu trop de déceptions, notamment par rapport au foot, etc. Et puis,
T'avais besoin de partir, peut-être?
Ouais, j'avais besoin de quitter les lieux un petit peu, voir autre chose, voir ailleurs. Il fallait que je change d'air absolument. Donc, je vais à Lyon. À Lyon, je fais mon bac plus 3 là-bas en publicité et communication, une école qui s'appelle Sub de Pub. Et en fait, je devais faire le master 1 à Paris. J'avais envie d'aller à Paris, voilà. Sauf qu'en fait, que je me suis inscrit, c'était trop tard. Donc, ils m'ont dit, faut attendre l'année prochaine. Ok, qu'est-ce que je peux faire en attendant? pourquoi pas se faire des cours Florent.
Ah mais donc tu vas vers le théâtre.
Bon, moi je vais vers le théâtre comme ça, ouais, parce qu'en fait, je vais vers le théâtre, c'est pas non plus anodin dans le sens où à cette époque-là, à la suite de pub, j'avais vraiment 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 beaucoup de mal à m'exprimer devant les gens en public. À peine tu me voyais sur scène, je tremblais, quoi, tu vois.
Ok.
Je tremblais, je bégayais, j'avais peur d'être là, je me sentais pas du tout à ma place. Si je pouvais éviter de parler, j'évitais de parler. Enfin, tu vois, j'étais vraiment très, 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 très timide. Et c'était impossible pour moi de monter sur scène devant qui que ce soit. Donc, je me suis dit, écoute, essaye de moi de progresser là-dedans, travaille un peu sur toi-même, tu vois. T'es parti à un moment donné, bon. J'ai travaillé mon anglais quand j'étais au Canada, j'ai pu, voilà, c'est une bonne chose de faite. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux encore améliorer en moi-même? Bah écoute, peut-être la confiance en soi, en essayant de s'exprimer de manière correcte devant des gens. Voilà, donc j'ai fait les cours Florent. Les cours Florent m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là.
Tu dis que t'es parti au Canada, mais t'es parti au Canada après le foot, c'est ça?
Direct, ouais, ouais.
Ah ouais, c'était une façon pour toi de dire, faut que je change d'air, c'est ça?
Ouais, je me suis cassé, ouais. Je suis parti au Canada, je suis parti à Vancouver.
Okay.
Quelques mois, tu vois, pour apprendre l'anglais. J'avais pas forcément d'autres objectifs. Mon père m'avait beaucoup encouragé à ce niveau-là. J'y suis allé, j'ai passé des très très bons moments, j'ai rencontré des super personnes, j'ai fait progresser mon anglais, et puis après je suis rentré en France et j'ai fait un BTS dans un premier temps, en management des unités commerciales, si je me trompe pas. C'est ça, c'est MUC, voilà, c'est ça, ouais.
Je t'ai entendu dire qu'il fallait pas faire ce BTS.
Surtout pas faire. C'est le BTS le plus éclaté du monde. Là, on a des études, franchement, frère, avec un BTS aujourd'hui, c'est même pas la peine de le faire, quoi. Ah mais faut être honnête, quoi. Ça
mais t'es un peu paumé à l'époque parce que justement par rapport à cette histoire d'avoir arrêté le foot, tu sais pas trop où tu vas.
Ah je suis paumé à 100%.
Ouais.
À 100% paumé, je sais pas du tout ce que je vais faire dans ma vie. Même sub de pub, j'étais paumé. Hein. Enfin je veux dire, tu sais, c'est un peu les études que quand tu sais pas quoi faire dans ta vie. Ça. Tu vois que tu fais sub, il y a des gens qui sont déterminés, qui sont ultra talentueux, j'en connais évidemment, qui avaient déjà, tu sais, voilà, ils étaient très forts là-dedans. Mais moi c'est vrai que ça m'a plu, c'est des études qui m'ont plu. Attention, hein. ça m'a beaucoup plu. Mais en toute honnêteté, j'étais pas fait pour ça non plus, quoi. Mais je savais pas quoi faire, en fait. Je dis, faut que je fasse quelque chose, je peux pas rien faire de ma vie, quand même.
Et il y avait pas grand chose qui t'intéressait, à part le foot, en fait, en grandissant.
Y a rien qui m'intéressait de spécial, franchement.
Tu dois être dans un tel seum à l'époque?
Bah, en fait, j'étais pas dans un seum, mais j'étais perdu, quoi.
Ouais.
Tu vois, j'étais perdu. Tu vois, mais je pense comme plein de mecs aujourd'hui, ou plein de meufs, tu vois, aujourd'hui, tu vois, qui savent pas quoi faire, qui se disent, en plus aujourd'hui ça va être encore pire, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, tout le monde veut être connu, tout le monde veut la lumière, tout le monde, en plus c'est possible pour tout le monde, maintenant tu vois, il y a plus de, c'est pas la peine maintenant de se casser les couilles pour écrire un gros texte pendant un an et de sortir un bête de spectacle. Aujourd'hui une vidéo ou un tweet ou je sais pas quoi, tu peux buzzer. Donc tu vois, aujourd'hui ça va être encore pire. Je pense que l'envie d'exister aujourd'hui, elle doit être encore pire qu'à l'époque. Donc ça me fait mal au cœur pour ces gens qui sont en train de vivre la même chose que j'ai vécu, mais à mon avis fois double.
Donc ouais, tu dis que cours Florent, tu te lances dans les cours Florent comme ça, et c'est quoi alors de cette là, c'est ta première expérience avec le théâtre, avec les scènes?
Ouais, ma première truc, c'était, je te dis, à la primaire, hein, c'est là que j'ai commencé, ouais. mais bon, ma première vraie expérience théâtrale, c'était au cours Florent, effectivement, ouais. Mais encore une fois, le cours Florent, j'en garde un très bon souvenir dans le sens où ça m'a vraiment décomplexé. Voilà, il y a des professeurs, ils m'ont beaucoup aidé, ça m'a décomplexé, j'ai pris confiance en moi, j'ai retrouvé un autre truc, ça m'a fait du bien, etc., etc. Mais j'étais pas moi-même, je me sentais pas bien.
Mm-hmm.
Je me sentais pas bien, en plus j'étais très pauvre, j'avais pas d'argent, et c'était difficile de payer l'école. Et puis tu sais, tu te sens encore plus complexé quand en fait tu te rends compte que les gens avec qui tu traînes, bah eux, leurs parents, leur payent les cours Florent, leur appartement, etc., etc. Moi, je comprenais pas que mes parents m'aidaient pas. Je dis, putain, mais pourquoi tout le monde paye à ses enfants et moi, mes parents me payaient pas? Enfin, j'étais con, tu vois. J'étais jeune, j'étais con, écoute.
Et c'est là que t'es rentré dans cette histoire de raconter des histoires, de raconter des histoires aux gens, c'est
bien
ça,
sûr,
autour de toi?
Parce que bien sûr.
T'avais besoin d'exister, forcément.
T'avais besoin d'exister, mais c'était une sale mentalité, nulle, putain, je regrette tellement. Mais ça fait partie de la vie. Écoute, aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est de s'en rendre compte au final. Voilà.
T'as eu des amis qui t'ont pris, qui t'ont dit, mec, il est temps de changer, t'es en train de te mentir, etc.
Je me suis mangé pas mal de claques de ma vie. Hein. J'ai eu des séparations assez brutales avec des amis, tu vois, qui m'ont
fait. À cause de ça,
okay. Ouais, qui m'ont fait rendre compte de pas mal de choses. J'ai, ensuite, oui, bien sûr, j'ai eu des discussions avec d'autres potes ensuite, etc., etc. Ensuite aussi, entre guillemets, les retrouvailles avec la religion, ça m'a fait du bien aussi.
Okay.
Parce qu'en plus, la religion, ça te parle pas mal de ça aussi, etc. Peu importe que ce soit le catholicisme, le judaïsme ou l'islam, les trois disent à peu près la même chose. Donc, tu vois, ouais, ça m'a fait du bien de... Le whoop, surtout le whoop, en fait, ça m'a fait du bien aussi.
Énormément. Avant de parler du Whoop, il faut qu'on parle un petit peu de comment tu viens vers la scène. C'est à l'époque, tu commences quoi? Tu commences vers au Paname, c'est ça?
Ouais, exactement. En fait, c'est au Paname qu'on a commencé nos vraies scènes. C'est Karim Kachour qui nous a donné l'opportunité.
Le big boss
du Panama Art Café. Voilà, Karim, hein, qui m'a soutenu depuis le départ, Karim.
Alors, si vous connaissez pas le Paname, c'est là où c'est un café en fait, où il y a une cave plein d'humoristes peuvent venir jouer et ont démarré et viennent faire des scènes ouvertes, etc.
Exactement, quoi. Le Panama Art Café, ouais, c'est 14 rue de la Fontaine au Roi, République, mortel comme endroit. C'est un peu ma deuxième maison, quoi, tu vois. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai fait mes plus belles rencontres, tu vois.
Qu'est-ce qui donne envie de monter sur scène et de te dire, tiens, je vais écrire des sketchs et je vais aller les raconter sous forme de stand-up? T'as un déclic à un moment donné qui te fait dire, tiens, je vais faire ça?
C'est Karim. Hein.
Ah ouais?
Ah ouais.
Mais comment ça?
Karim Kachour. Ouais. Karim Kachour, un jour, il m'a dit, écoute, Hakim, il faudrait que t'écrives des sketchs et que tu montes sur scène, que tu fasses du stand-up, quoi, en fait. Il m'a filé un
plateau. Parce que tu faisais des blagues quand vous parliez ou
Non, oui, mais ouais, il m'avait déjà vu sur scène. On faisait des scènes d'impro, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'était pas très très sérieux, tu vois. Et Karim, un jour, il m'a pris à part. Je me rappelle, il m'a dit, écoute, je vais te donner un plateau. Voilà, je vais te donner un plateau tous les mardis à 20h. Voilà, c'est l'open mic, ça s'appelait, l'open mic. Il m'a dit, tu vas animer, tu prends ton chapeau à la fin. Et puis voilà, c'est Karim qui m'a donné ma première opportunité de faire de la scène. C'est lui qui m'a fait débuter.
Ok. Ouais,
bien sûr.
Et donc tu te lances, tu te dis, bah tiens, je vais écrire 5 minutes, 10 minutes.
Je me lance, exactement. J'écris, c'était pas très bien. Hein. tu vois, c'est les débuts, hein, tu vois, c'est normal.
C'est normal.
C'était pas ouf. Ensuite, ouais, je commence avec Karim comme ça. Ensuite juste après que je commence, en fait, mais très vite après que je commence le Whoop, voilà, on s'est tous rencontrés au Paname, tous.
Comment ça s'est passé, le Whoop?
Bah écoute, un jour il y a Karim qui m'a mis Malcolm, un mec du Whoop, dans les pattes pour mon plateau de 20h. Moi je voulais pas.
Dans les pattes.
Ah ouais, j'étais énervé, putain.
Il voulait vous faire co-animer, c'est ça?
Ouais, il a dit vous allez co-animer à deux. Je fais non, s'il te plaît, je l'aime pas. Et je l'aimais pas, c'est Malcolm à l'époque. et lui il avait pas forcément quelque chose contre moi, mais il voulait pas non plus animer avec moi.
Il voulait tout seul aussi,
tu vois. Et finalement, en fait, j'ai adoré ce mec et j'ai adoré son humour. Il m'a beaucoup aidé, Malcolm, au départ. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, on a fait venir des poteaux sur des plateaux, puis etc., etc. Et puis après, le groupe s'est formé très rapidement. Et ensuite, après le succès du groupe.
C'était énorme. Vous étiez quoi? 7, c'est ça?
7,
Et vous avez fait des tournées de. Alors, déjà, vous avez lancé une chaîne. Vous avez lancé une chaîne YouTube.
Une chaîne YouTube, ouais,
c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître, à faire des sketchs ensemble.
Exactement, ouais. Alors attends, dans l'équipe, on avait déjà Mister V et Hugo Toussel, qui étaient déjà des grosses stars sur Internet. Donc effectivement, il faut être honnête, ils ont énormément boosté la chaîne. Tu vois, donc on leur doit beaucoup quand même à nos débuts. Hein. Ces mecs-là nous ont beaucoup aidés aussi, attention. Et en fait, mais par contre, on s'attendait pas à ce que ça marche comme ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, du jour au lendemain, les vidéos ont commencé à prendre, mais vraiment prendre. Jusqu'à qu'on atteigne des scores incroyables, quoi, tu vois, surtout pour l'époque. C'était ouf, quoi, tu vois, on arrivait à faire 1 500 000 vues en 24 heures, enfin, tu vois, des trucs qu'il n'y a pas encore grand monde qui arrive à faire maintenant, quoi, tu vois, donc même s'il y en a de plus en plus, mais ouais, donc effectivement, le Whoop, c'est allé très vite, le succès est arrivé très vite, c'était incroyable.
Comment ça se passe de se dire, en fait, toi, t'es tout seul, t'as jamais forcément eu d'expérience d'écriture, en fait, tu commences à écrire des trucs et tout, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à 7 à devoir écrire des sketchs ensemble et à les jouer, et parce que vous étiez pour la plupart du temps ensemble. Comment ça se passe? C'est une nouvelle forme de travail aussi, j'imagine, pour toi, que tu connais pas trop, quoi.
Ouais, c'était extraordinaire, j'adorais ça. Ouais. Ah, j'adorais ça. Ouais, parce qu'en plus, on s'entendait tous très, 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 très bien. Humoristiquement parlant, tu vois, on a tous un humour commun très très grand, tu vois, à fort pourcentage. On a chacun notre délire aussi, tu vois. Mais vraiment, moi, chacun des mecs du groupe me fait extrêmement rire, tu vois. Et je pense que c'était réciproque les uns vers les autres. C'est pour ça que ça a fonctionné pareil. Parce qu'on était vraiment d'accord sur la majeure partie des blagues, tu vois. On a eu la chance aussi d'avoir Alexandra Monori qui nous a entre guillemets propulsé. C'est elle qui nous a pris en main à l'époque. Hein. Kader Aoun nous avait offert notre première scène.
Okay.
C'est lui qui nous avait offert notre première scène au théâtre. Ça s'appelait pas l'Apollo à l'époque, ça s'appelait le Temple.
Oui, le théâtre du Temple.
Ouais, exactement. Alexandra nous a pris en main. Après, franchement, non, on s'entendait tous trop bien. L'écriture se passait très, très bien. Il n'y avait pas un mec qui voulait prendre l'ascendant sur l'autre ou quoi que ce soit. Et ouais, je pense qu'on avait compris le système. On avait compris qu'en fait, c'est comme, et en même temps on n'a pas trop calculé, hein, tu vois, c'est que voilà, écoute, ça te fait rire, bah viens on le fait, c'est tout, en fait on se posait pas de questions, ça me fait gaulerie, ah bah vas-y, parce qu'en fait chacun avait son petit talent, quoi, tu vois. Hugo par exemple, Hugo Toussaint, c'est un putain d'auteur, c'est un mec très 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 drôle. C'est un très très bon comédien. Il savait, lui, il avait déjà fait des vidéos, donc il savait comment.
Hugo tout seul de l'époque de Dailymotion, quoi.
Exactement. Ouais. Bah, Hugo, c'est un ancien. Hugo, il a débuté au départ. Hugo, moi, c'est qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui encore. Hein. Hugo, ouais. Bah, Hugo, moi, il m'a. C'est un des mecs avec qui je préfère écrire en plus. Ouais, c'est avec Hugo. Hugo, en fait, il a parfaitement cerné qui j'étais dans la vie ou même humoristiquement parlant. C'est un des mecs avec qui je m'entends le plus, Hugo. Ouais, donc ouais, incroyable. Jérémy, alors lui et moi, on avait carrément une relation fusionnelle. À un moment donné, c'était presque ma meuf, quoi, pour te dire.
Parce que vous avez fait une tournée de
malin, de
maboule. Donc ouais, vous viviez en plus.
On vivait ensemble tous les jours.
24 heures sur 24, ouais.
24 sur 24 avec les mêmes mecs. C'était merveilleux. On a vécu les plus beaux moments de ma vie que j'ai passé professionnellement parlant. C'est très certainement avec le Hoop, et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Tu vois, donc ouais, c'était extraordinaire. Ouais. Et avec ces gens-là. Et ben, je me suis senti extrêmement bien, tu vois, parce que les choses étaient dites de manière précise, cash, tu vois, c'est pas des mecs qui ont leur langue dans la poche. Du coup, bah, tiens, ouais, c'est la première fois qu'on parlait comme ça, quoi, tu vois. Les choses étaient dites en face, quoi. C'était pas de fait de manière un peu sournoise ou quoi. Dès qu'on avait un truc à me reprocher, on me disait non, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, avec eux, bah, je me suis senti moi-même, j'étais moi-même, en fait. Et c'est là que le Hakim, le vrai, en tout cas, celui que j'aime être, celui que je veux être, et celui qu'à mon avis, j'ai toujours été, et ben, c'est là qu'il est apparu. C'est au moment du Whoop.
Waouh. En vrai, c'est ouf, ouais. Quand même. T'avais quel âge?
Je devais avoir 24 ans.
C'est ça?
Ouais, c'est ça. 24, 25, un truc comme ça. 23, 24, 25. Un des trois, je sais plus, ça fait longtemps, mais non, putain. Je suis un vieux.
Qu'est-ce qui s'est. En fait, c'est le fait d'avoir trouvé une bande comme ça qui t'a permis de pouvoir te dire, OK, en fait, j'ai le droit d'être comme je suis.
Pas une bande, mais des amis.
Ouais.
Des vrais amis. Tu vois, des mecs qui m'ont apporté une fraîcheur dans ma life, quoi. Ils m'ont tous fait du bien. En vrai, de vrai, tu vois. Ils m'ont tous fait du bien, de ouf. Après, attention, j'ai des vrais amis en Alsace, hein. Des vrais amis d'enfance, tu vois, avec qui on a déjà parlé de tout ça et tout. Effectivement, hein, j'ai mes amis, mes frères, Samy, mon frère de sang, Jem, Riza, Okan et tout. C'est des mecs avec qui j'ai grandi et on se voit tout le temps, tout, tu vois. En tout cas, on essaie de s'avoir au téléphone le plus possible. Mais c'est vrai que le Whoop, artistiquement, amicalement parlant, c'était incroyable.
J'ai l'impression que t'avais un peu trouvé tes... Des justement, ouais, c'est ça, des âmes sœurs d'artistes, tu vois ce que je veux dire?
Exactement ça.
T'avais tes potos de la cité, de ton enfance, mais ils étaient pas forcément artistes.
Exactement, c'est exactement ça.
T'interdisais d'être artiste jusque-là, tu penses, dans ta vie?
Ouais, je pense. Bah ouais, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, être artiste, quoi. Mais même encore maintenant, hein. Franchement.
Mais mec, tu montes sur scène.
Ouais, je monte sur scène. Bah, si on doit définir ça comme étant un artiste, y a pas de problème, on va définir ça comme ça. Mais moi, je me considère pas comme étant un artiste parce que je sais pas vraiment précisément ce que ça veut dire être artiste. En tout cas, j'essaie de, en tout cas, monter sur scène. Là, je kiffe.
Ça,
c'est de ouf, voilà. J'essaie de faire gaulerie les gens au maximum. Moi, en tout cas, moi, ça me fait rire.
Ça marche très bien.
Ce que je raconte. Si les gens, ça leur plaît pas, bon, bah, ça fait partie du jeu, quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est ça, mon métier, quoi, tu vois. C'est monter sur scène, faire rire les gens, faire du cinéma, faire rire les gens. Voilà, être avec les potos, les faire rire aussi, passer des bons moments, un maximum de bons moments avec les gens.
Quand est-ce que le Whoop se termine? C'était il y a 2 ans, c'est ça?
À peu près, ouais, 2 ans, 3 ans, ouais, exact.
Vous vous dites, ok, c'est bon, on a fait le temps, il est temps de faire chacun nos vies de nos côtés, c'est ça?
Voilà, ça s'est un peu fait naturellement aussi. Mais on savait, attention, on n'est pas genre tombé de haut, waouh, le Whoop, ça s'arrête ou quoi? Non, on était au courant que ça allait s'arrêter, on était au courant qu'à un moment donné, chacun commençait à prendre son petit chemin, on est tous encore amis, on se voit, là, il y a encore un quart d'heure, j'étais avec Hugo, là, tu vois, et Jérémy. Donc, pour te dire, non, ça reste la famille en toutes circonstances, hein, ça sera mes frères de sang à vie, sans aucun obstacle, il n'y a pas de problème.
Après ça, attends, je me trompe pas, mais tu as quand même fait un tour chez Touche pas à mon poste.
Ouais, j'étais avec Cyril, bien sûr. Ah bah, Cyril aussi, attention.
Alors, Cyril Hanouna.
Oui, Cyril Hanouna, bien sûr. Non, mais. Cyril, c'est le premier mec qui m'a donné ma chance à la télé. Hein. Cyril, hein. Bah, Cyril, un jour, je me rappelle, on avait une promo avec le Whoop pour une date de tournée du Whoop. On est allé sur TPMP et en fait, avec Cyril, on a bien accroché. Il a appelé mon attaché de presse et dit « je le veux l'année prochaine ». Et puis du coup, bah, on est allé et puis Cyril, c'est devenu un ami. C'est un poteau, Cyril, maintenant. Tu vois, alors les gens, ils ont beau penser ce qu'ils veulent sur Cyril, critiques, etc., etc. Moi, je le connais personnellement dans la vie. C'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, je pourrais jamais être ingrat ou cracher dans la soupe. C'est un mec qui m'a donné ma chance à la télévision. Et tous les mecs à un moment donné qui t'aident dans ta vie, bah il faut les remercier, quoi, tu vois. Comme Kader Aoun, par exemple, on n'en a pas forcément parlé encore maintenant, mais ouais. Mais Kader, c'est celui qui, tu sais, moi après le Whoop, quand j'ai voulu écrire mon spectacle solo parce que j'avais besoin, j'avais envie de parler seul sur scène,
ouais.
Et bah c'est Kader qui m'a aidé. Kader, il m'a fait progresser, mais t'as même pas idée, il m'a fait monter de 3 crans tout de suite.
C'est lui qui t'a mis en scène, c'est ça?
C'est lui qui m'a mis en scène, bien sûr. C'est Kader qui m'a appris le stand-up.
Alors Kader Aoun, si vous le connaissez pas, attends, je suis en train de chercher. Est-ce que j'ai déjà parlé de Kader dans mon poste? Je sais plus. Bref, mais en tout cas, c'est le gars qui a fait connaître à l'époque notamment Jamel et, qui, ouais. et toute la nouvelle clique qui est passée
bien
par
sûr,
là. Voilà.
Bien sûr, non. Kader dans le stand-up, c'est quelqu'un d'important, c'est sûr et certain. Non, moi, il m'a fait du bien. Après, moi, tu sais, je parle pas pour les gens, je parle pour moi.
Ouais.
Mais pour moi, en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui m'a fait sauter des paliers. Et c'est quelqu'un qui m'a fait progresser plus vite que je ne devais, en fait, tu vois. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, quand même, ensemble, à écrire et à apprendre, tu sais, voilà. Parce que le stand-up, ça reste un métier, tu vois. C'est pas comme ça, au hasard et tout. Et donc, non, j'ai eu la chance. Franchement, dans ma vie, j'ai toujours eu, malgré tout, et là, je m'en rends peut-être compte là maintenant en t'en parlant, mais j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des mecs vraiment talentueux et vraiment qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné la chance de faire des trucs.
Tu crois que c'est de la chance? Tu crois pas que tu les attires aussi?
C'est peut-être le destin, ouais.
Non, mais tu crois pas que tu les attires?
En fait, je crois pas que c'est dû à moi, franchement.
Ah ouais?
Non, je pense pas que ce soit dû à moi.
Mais pourquoi?
Moi, je crois beaucoup au bail du destin, un truc comme ça et tout, tu vois. Alors évidemment, on a tous notre libre arbitre, on est libre de prendre nos propres décisions, ça c'est évident. C'est à nous de faire les bons ou les mauvais choix. Mais quoi qu'il arrive, je pense que si tu passes par là ou que tu passes par là ou par là, si tu dois finir là, tu finiras là, tu vois.
Ouais. Alors après, j'ai un autre truc à te dire, tu vois. C'est que je t'ai vu dans Docteur.
Ouais.
Mais mec, c'est ton premier rôle au cinéma.
Exact, ouais.
Mais t'es géant.
Bah, ça fait plaisir, ça.
T'as jamais fait ça de ta vie?
Non, c'est la première fois, ouais.
Alors certes, t'as joué dans des sketchs, mais c'est quand même pas du tout le même métier.
Ah, ça n'a rien à voir.
De jouer
je te
dans des sketchs sur YouTube.
Je te confirme.
J'imagine de faire un long métrage avec Michel Blanc, quoi.
Ouais, ouais, c'était fou.
Mais t'es naturel, tu vois.
Encore une fois.
Comment tu te retrouves dans ce rôle?
Bah écoute, c'est Tristan Seguela, qui est lui aussi devenu un ami de ouf aujourd'hui. Ouais.
Qui est réalisateur.
Il faut que je précise. C'est vrai que
non, mais je le dis, c'est mon rôle.
Les gens ne sont pas forcément au courant. Mais ouais, Tristan Seguela qui voulait me voir, en fait, en essai, qui est venu voir mon spectacle, qui a adoré, qui m'a fait confiance sur le film. Il s'est engagé avec moi, alors que, tu vois, il aurait pu s'engager avec des acteurs beaucoup, beaucoup plus connus, avec qui ils auraient pu chercher beaucoup plus d'argent, tu vois. Il m'a vendu à Michel Blanc.
Ouais.
Michel a adhéré aussi tout de suite. La prod, Bruno et un de mes auteurs préférés, Jim aussi, ont adhéré directement à mon profil. C'est Tristan, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais refaire des films. J'ai adoré bosser avec lui. On était tous les deux très sérieux, on était tous les deux à fond. Tu vois, c'était ça c'était incroyable.
Tu lui donnes le change quand même à Michel Blanc, qui est quand même une. Une légende, quoi, du cinéma français.
Ah, c'est une légende. Ah ouais, moi j'avais la pression. Hein. Ah là, je t'en parle là maintenant, genre, tu sais, je souris et tout, mais sur place, je peux te garantir, t'as la pression. Parce que tu dis, attends, Michel Blanc, il aurait pu ne pas accepter de jouer avec moi.
Ouais.
Tu vois, c'est qui ce mec? Il vient de YouTube. Tu vois, tu sais pas le regard que les gens portent sur les mecs de YouTube, tu vois, c'est un peu parfois dénigrant, tu vois. Et je me suis dit, attends, Michel Blanc, qu'est-ce qu'il en a à foutre de jouer avec un mec de YouTube? Merde. Et finalement, en fait, avec Michel, on s'est tellement bien entendu. Il m'a tellement aidé. Il m'a tellement appris, il m'a tellement enlevé la pression.
Comment il t'a aidé?
Il m'a aidé. Bon, on a beaucoup discuté, on parlait beaucoup entre les prises. En fait, à aucun moment, il m'a fait ressentir que genre, il m'a toujours traité d'égal à égal, quoi. Tu vois, il n'y a pas un moment où il s'est dit bon, alors que franchement, ça m'aurait pas gêné s'il avait fait. Hein. Tu vois, parce que oui, effectivement, c'est une légende de Michel. En vrai, qu'on le veuille ou non, c'est une putain de légende. Hein. Il a plus rien à prouver dans le cinéma, lui. Tu vois, franchement, ou même au théâtre, ou même dans l'humour. Hein. Tu vois, il a réalisé. Il a joué, il a eu des prix, il a eu des grands succès. Donc c'est incroyable de pouvoir tourner avec Michel Blanc. T'imagines, j'ai dit ça à mon père il me croyait même pas. Il dit,
c'est vrai.
Michel Blanc, il est bronzé et tout. Je dis bah oui. Ah ouais, bah ouais, Michel Blanc, mec. Michel Blanc, putain, je croyais pas.
Qu'est-ce que ça te fait le jour où tu dis ça à ton père?
Bah, c'est une fierté de fou. Mais en vrai, quand je l'ai dit, même moi, je croyais pas. Je dis attends, putain, je veux quand même faire un film en rôle principal avec Michel Blanc. Waouh. Quelle chance.
Oui, puis en plus, vous êtes que deux dans le film, quoi. C'est pas comme si...
T'es
le second rôle, quoi.
Ouais, c'était... Même, c'est le premier rôle partagé avec Michel Blanc, quoi. Tu vois, c'est comme ça que c'était vendu, quoi. Tu vois, on a le même nombre d'heures de tournage, le même nombre de jours et tout, tu vois. Donc, c'est ça qui était fou, quoi. Tu partages l'affiche avec Michel Blanc.
t'es cité au César.
Ouais, je suis prénommé dans la liste des, de meilleurs espoirs. Ouais.
Excuse-moi. Hein.
Ouais, c'était fou, mec. C'était fou. C'était fou. C'est ma femme qui était trop contente.
Alors justement, en plus, c'est l'occasion de... On va reboucler avec Fadili parce que... Elle joue dans une des scènes les plus drôles du film, en fait, où elle est en train d'accoucher.
Mais pour moi, c'est la scène la plus drôle, ouais.
Ouais, clairement.
Ouais, c'est la meilleure pour moi, cette scène.
Alors, je vous pitch rapidement le truc, mais en gros, toi, tu te retrouves à jouer, à faire le docteur à la place de Michel Blanc, qui, lui, s'est niqué le dos.
Ouais, c'est moi qui lui ai niqué le dos, en plus. c'est ça. Donc, j'étais obligé de le remplacer, quoi.
Et Fadili joue le rôle d'une femme enceinte qui accouche, et toi, tu l'as fait accoucher.
Exactement. Ouais, c'est fou, hein. Et c'était peut-être les deux jours de tournage, parce qu'elle était deux jours avec nous sur le tournage.
Ouais.
C'était peut-être les deux jours les plus durs de ma vie.
Pourquoi?
Bah parce que déjà le rôle de Fadili, il était très 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 dur à jouer, tu vois.
Pourquoi?
Là je te parle en tant que performance d'acteur.
Ouais.
C'est une performance qu'elle a fait quand même, tu vois. Il faut jouer une femme enceinte, tu vois. Elle a jamais été enceinte avant ça, quoi, tu vois. Donc c'est un truc, il faut se mettre dans des états. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. En même temps, il faut rester juste, il faut être dans, tu vois, c'était. Et puis en même temps, elle sait qu'elle joue dans mon premier film. Du coup, elle a envie qu'on soit parfait, quoi. Donc on a une pression supplémentaire, forcément. Elle a peur que ça se passe mal pour moi et j'ai peur que ça se passe mal pour elle. Du coup, en fait, sans cesse, j'étais en pression pour elle, elle était en pression pour moi. Mais je pense que justement, c'est ce qui fait que la scène a bien marché parce qu'on n'a rien lâché du tout, quoi, tu vois. Et c'était deux jours très, très difficiles à tourner parce que c'était dur à tourner. Les plans étaient compliqués à faire. On n'avait pas beaucoup, beaucoup de temps et on a dû rentrer des scènes assez rapidement. On a pris du retard même. Donc on était à fond, on n'avait pas le droit à 15 000 prises, à 15 milliards de prises. Donc il fallait être vif tout de suite, quoi, tu vois. Et donc j'étais trop fier d'elle parce qu'après, quand j'ai vu le résultat, j'ai dit ah ouais, putain, magnifique, elle a tout pété. J'étais trop content. Et je suis trop content, ouais. Et finalement, même Tristan le pense, hein, c'est pour lui, même Michel, il a dit pour lui, c'est une des scènes, c'est leur scène préférée du film.
Ouais, elle est géniale.
Tu vois. Donc je suis content, c'est avec ma femme.
Yes,
c'est parfait, quoi. Mission réussie, en fait.
Mais tellement.
Hein, donc mission réussie, c'est ça. Mission accomplie, pardon. Accomplie.
Attends, bon, avant qu'on reparle de Fadili, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu qui renaît en toi là quand t'en parles. C'est un peu l'esprit de compète qui vient du foot.
Ouais, bien sûr.
Ça te.
Ah bien sûr. Ah, oui.
Parce qu'on en parle pas trop parce que t'as l'air chill et relax et tu vois, mais.
Oh, je supporte pas perdre, moi.
Ah ouais.
Mais
tu le dis pas.
Ouais, je le dis pas. Non, mais si je fais.
Hyper chill.
Si je fais un truc, faut que je sois le plus fort, sinon c'est pas la peine. Hein. Ah bien sûr.
Non, mais attends, mec.
Bien sûr.
Ça fait presque une heure qu'on parle.
Ouais, mais ça, c'est pour moi-même, ça, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, je me mets en concurrence avec les gens, mais vraiment pour moi-même, quoi. C'est-à-dire que si Fadili ou quoi, par exemple, si on fait un plateau humoristique et qu'on est quatre potes et que je fais pas du tout le meilleur passage, ça va pas du tout me déranger. Au contraire, je serais très heureux. Mais moi-même, quand même, j'en prends un petit coup dans mon écho. Je dis, attends, Hakim, normalement, t'es censé être plus fort que ça, là, tu vois. Donc oui, évidemment, je suis toujours en compétition. J'aime pas perdre.
Les gens qui ont jamais fait de sport, je pense, et surtout du sport co, c'est qu'ils ont, je pense, ils pensent que, et qui ont, tu sais, un avis négatif sur l'esprit de compétition. J'ai plein de gens comme ça autour de moi, et en fait, ils comprennent pas que l'esprit de compétition, c'est pas forcément écraser les autres.
C'est tout.
C'est réussir à être meilleur que les autres, toi, pour toi-même.
Mais
quoi.
Bien sûr, mais je peux comprendre les gens qui pensent ça. Pourquoi? Parce que souvent, dans l'esprit de compétition, il y a la notion d'humiliation qui va avec. Et ça, oui, effectivement, c'est horrible. Parce que, par exemple, quand les professeurs, à l'époque, à l'école, nous mettaient en compétition les uns vers les autres, nous, les élèves, tu sais, quand ils commençaient à rendre des copies, tu sais, par la note la plus nulle, jusqu'à la note. Bah, ça, c'est affreux.
On s'en souvient.
Ça, c'est affreux. Ça, c'est de la compétition malsaine. Tu vois? C'est humiliant de passer pour un teubé devant tes camarades de classe, quoi, tu vois. Tu commences tout le temps, bon, bah, Hakim, deux, tu vois, bah, du coup, bah, les gens, ils te voient autrement, quoi, tu vois. Tu sais pas comment ils réfléchissent, les gens, tu vois. Et derrière toi, t'as tout de suite tendance à dire, putain, ouais, il est inaccessible, Victor, il a eu 17 à chaque fois. Et moi, j'ai deux ou trois à chaque fois, je comprends pas. Et je trouvais ça horrible, en fait, qu'ils puissent rendre ce système possible à l'école. Ça, c'est malsain. Et ça, c'est humiliant. Et ça, il faut à tout prix l'arrêter, évidemment. Mais après, moi, la compétition dont je te parle, c'est pas celle-là du tout. C'est la compétition, voilà, quand tu perds un match de foot, bah, tu pleures parce que t'as envie de gagner ton match, c'est tout, tu vois, mais t'en veux pas à l'équipe en face, tu vois. Et là, parfois, tu peux en vouloir à Victor, qui a eu 17, et au prof, alors que dans le foot ou dans le sport, c'est pas ça, t'en veux pas aux gens. Tu t'en veux à toi-même, en vrai. Tu dis, putain, mec, pourquoi j'ai pas marqué, là, en fait? Pourquoi j'ai tiré sur le poteau? Mais tu dis pas pourquoi lui, il a marqué. Tu vois, c'est ça l'esprit de compétition, le vrai esprit de compétition, c'est ça. Mais je pense que ça a différencié, ça, c'est important.
Et dans ton art aujourd'hui, dans... alors, tu t'appelles ça, je sais pas, moi j'appelle ça de l'art, hein. Après tu...
Ouais, d'accord.
Tu fais comme tu veux. Hein,
mais... J'appelle ça un spectacle.
Non, mais c'est une prestation artistique. Quoi,
oui,
tu...
oui, oui,
c'est, tu vas pas dire, mais c'est quand même pas normal de se pointer tout seul comme ça, face à une salle de 100, 150, 200, parfois plus personnes, et de juste leur parler, ça n'existe pas dans la vie.
Mais en vrai, de vrai, ça n'existe pas. Mais on se lit des fois avec des potes humoristes. Hein.
Ouais.
On se lit des fois, on dit putain, en fait tu te rends compte quand même, on fait quand même un métier bizarre. On arrive, on est là, on est prétentieux comme pas possible. On vient avec nos propres textes, on pense qu'on va réussir à faire rire la galerie. On est vraiment des putains de fous, quoi. En vrai, on se le dit parfois, ouais, mais écoute, on a pris l'habitude. Hein. Écoute, franchement, maintenant, moi, je me vois pas forcément vivre sans, quoi. Tu vois, moi, j'ai besoin de monter sur scène régulièrement. C'est que comme ça que je kiffe. Je kiffe être devant les gens, on tape des bars. J'aime bien parler aux gens, moi. C'est pour ça que je sors tout le temps après les spectacles.
Ouais.
Ouais, ouais, bien sûr, mais bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est d'arriver, de raconter ta vie sans pouvoir avoir la vie des gens? Non, c'est inintéressant.
On va parler d'Oumoul.
Oumoul, bien sûr, ça c'est son vrai prénom, ça. Elle nous a bien carin.
Fanny dit son vrai prénom, c'est Oumoul. Spoiler, vous l'apprendrez en,
ouais,
voilà, en regardant le spectacle.
Il n'y a pas de problème, c'est vrai, t'as raison de le dire.
En fait, il y a un truc qui m'intéresse chez vous, c'est vraiment votre duo, parce que c'est rare, je pense, d'avoir des duos comme ça. Dans le stand-up de comiques qui sont couples aussi, tu vois. Vous êtes amoureux.
Ah,
et
ouais,
en même temps, vous
oui.
êtes. Et ça se sent, tu vois.
Ouais, ouais, mais. T'as raison. Alors écoute, franchement, on n'a jamais rien calculé. On n'a jamais rien calculé, ni elle, ni moi.
Mais ça se sent, hein.
Ouais, tu vois. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais franchement, c'est tellement naturel avec Fadili. Ça s'est tellement fait de manière naturelle. Tu vois, franchement, là, je me vois vraiment pas vivre avec quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois.
Elle tient une grande place dans ton spectacle, aujourd'hui?
Elle tient... Ouais, quand même. Hein.
Et non, mais...
Ouais,
parce qu'en
sûr.
Fait, entre eux, bah, tu parles du mariage, tu parles beaucoup de votre couple aussi. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que t'en as tiré un truc de cette vie-là, en fait. T'en as tiré un truc qui te ressemble, toi. Tu vois ce que je veux dire? Et
ouais.
Qui fait que c'est vrai et qu'en fait, les gens, peut-être, s'attachent.
Bah écoute, c'est possible. En tout cas, je raconte vraiment ce qui se passe entre nous, quoi, tu vois. Je raconte vraiment les vraies stories, les trucs qu'on ressent vraiment. Quand je dis, par exemple, que je me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie que depuis que je suis avec elle, c'est la vérité, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux que je te dise, mec, tu rentres chez toi le soir, t'es heureux, quoi. Tu vois ta femme, bon, tu sais qu'elle est bon délire, tu vois. On fait le même métier. Il est absolument pas question d'être jaloux de quoi que ce soit. Tu vois, de toute façon, nous, on s'est fixé des règles au début de la relation aussi, tu vois. Il faut bannir toute forme de jalousie quelconque.
Ah, j'allais dire, il y a un danger dans votre couple, c'est que vous êtes en compète, entre guillemets, quoi.
Ouais.
Enfin, vous évoluez dans le même milieu et à un moment donné, bah, donc Fadili a un special sur Netflix.
Ouais, exact.
Ça a été la première meuf.
Ouais, fierté absolue.
Française à avoir son special à elle.
Ouais, bien sûr. C'est la première femme française à avoir son special sur Netflix, exactement. Ouais.
Truc de fou, quoi.
Truc
même.
De malade, c'est un truc de fou.
Et toi, j'ai l'impression que pour toi, c'est une fierté, alors que bah, ça pourrait aussi être. Et je t'en voudrais même. Enfin, tu vois, ça
bien
serait
sûr,
même pas.
Sûr.
Ça serait entendable, en fait. Ça pourrait être pour toi un truc qui te pique, quoi, tu vois.
Bah non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste. Juste merveilleux. C'est... J'étais... Moi, le jour où elle a enregistré, j'ai passé toute la journée là. C'est même moi qui fais sa première partie. Tu vois, pour te dire, moi et Lenny, un autre poteau aussi humoriste qui est très très fort. Mais ouais, non. Fadili, quand elle réussit, c'est comme si moi je réussis. Je peux te garantir que c'est réciproque. Hein. Franchement, il n'y a aucune compétition avec Fadili.
Comment vous avez fait ça pour créer ce climat sain entre vous? Tu disais, vous êtes fixé une règle déjà en...
Ouais, pas de jalousie. Déjà, c'est pas une règle, c'est logique en fait. Plus tu grandis, plus tu dis en fait, tu peux pas vivre avec des sentiments malsains quand t'es avec quelqu'un. Si un jour la personne doit partir pour quelqu'un d'autre, bah, elle partira pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Voilà, hein, bon, c'est comme ça. Il faut accepter son destin, il faut accepter la vie. Je pense qu'avec Fadili, on a tous les deux compris ça. Tu vois, et puis aussi, il faut l'admettre aussi, excuse-moi de mettre ça un peu sur la table, mais.
N'hésite
mais,
pas.
Mais la religion, ça nous a beaucoup aidé, ça,
ouais.
Tu vois.
N'hésite voilà. pas, pourquoi tu dis excuse-moi?
Non, parce qu'aujourd'hui, t'as toujours un peu honte un peu de parler d'islam, parce que c'est pas, comme je l'ai dit dans le spectacle, c'est pas à la mode de ouf, ça fait un peu flipper.
Ouais.
Mais l'islam est quand même une religion qui est pour moi à 2 milliards de pourcents positive, quoi, tu vois.
Ici Fab en direct du montage. L'histoire aura voulu qu'on enregistrait cette interview en plein pendant le meurtre de Samuel Paty, dont vous avez sans doute entendu parler dès vendredi soir et samedi, et tout le week-end, puis ça fait encore l'actualité aujourd'hui. Je voulais simplement vous mettre, juste avant de reprendre l'interview, un extrait de la vidéo qu'il a postée sur Instagram. Si vous voulez la voir en entier, je vous mets le lien directement pour aller la voir. Ça vous donnera un petit peu une idée de sa réaction à lui par rapport à cette horrible histoire, quoi.
J'adresse mes sincères condoléances à la famille du professeur Samuel Paty, voilà. Mes grosses condoléances, grosses pensées à vous, grosses pensées aussi à tous les professeurs, sauf les professeurs de maths, excusez-moi les frérots, parce qu'avec vos fonctions affines et vos vecteurs, vous m'avez gâché ma life, moi. Bon, dites pas, on est quand même ensemble, mais vous avez compris. Les gars, aujourd'hui, ces gens-là, là, ces fils de pute-là, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais ce sont des ennemis de la République, mais ce sont aussi des ennemis de l'islam. Ces bâtards, ce sont des ennemis de l'humanité, les frères, je vous jure. Vous vous rendez pas compte, ils sont en train de faire des dingueries. Les gens, ils vont commencer à croire que tous les musulmans, c'est des oufs. Ben oui, mais les frérots, vous rendez service à personne, bande de fils de pute. Laissez-nous tranquilles, putain, tuez-vous entre vous. Niquez-vous. Mais oui, les gars, vous êtes pas contents. Pourquoi vous êtes pas contents? Si t'es pas content, bah tu regardes pas des dessins, c'est tout, frère. Ou apprends à dessiner, on combat le dessin par le dessin, zébé. Au lieu de fréquenter des groupes mystiques sur les réseaux ou sur des forums chelous, les gars, mais allez prendre des cours d'art plastique et apprenez à dessiner comme tout le monde, les frères. Parce que, excusez-moi, les frérots, les gens, ils sont en train de tout confondre, là. Je vous jure, ces gens-là, on les voit pas dans les mosquées. On les voit pas dans les mosquées. Ils sont sur Internet, dans des trucs chelous, dans des forums mystiques, en train de retourner la tête aux petits, en train de faire... Surveillez vos gosses, les frères. C'est Internet qui part en cacahuète, je vous le dis, moi, c'est sûr et certain. Moi, j'ai fréquenté pas mal de mosquées. Je suis allé prier dans plein de mosquées. Jamais j'ai vu des trucs chelous, frère. Jamais j'ai entendu des paroles ambiguës. Mais je vous assure que c'est vrai. J'ai vu des pieds chelous. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les mosquées, gardez vos chaussettes. Ne nous faites pas subir des erreurs pareilles. Excusez-moi. Voilà. Des fois, l'imam, il nous engueule parce qu'on est mal garé, frère. Il va pas nous dire des trucs chelous, je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. La dernière fois, frère, je suis allé pour prier un vendredi. J'avais pas mon masque. Il m'a dit, frère, tu pries pas, j'ai failli aller à l'église. Non, mais excusez-moi. Ça m'a énervé aussi un peu. Mais bon, c'est normal, Covid et tout. Tout ça pour vous dire que les frérots, les gars, je suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Je suis tout aussi triste que n'importe quel Français, que n'importe quelle personne au monde. Ce sont des fils de pute. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais je suis obligé de le dire. Je le dis parce que, frérot, je préfère que ce soit un mangeur de dattes qui vous dise ce genre de choses plutôt que des mecs, là, soit fait de buzz, qui vont commencer à raconter n'importe quoi.
On s'est beaucoup accroché à ça, que ce soit elle ou moi, tu vois.
Vous êtes retrouvés ou tout ça entre, au sein du couple, c'est ça?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça occupe une partie importante pour nous, la religion. Bien sûr, c'est super important. De plus en plus, pas forcément tout le temps ou depuis le début, etc. Mais en tout cas, plus on vieillit, plus on se rend compte que oui, en fait, c'est important pour nous, tu vois. Ça nous permet de garder les pieds sur terre, ça nous permet de rester le plus humble possible, je pense. Ça nous permet aussi de reconsidérer les choses, de relativiser, tu vois. Et ça nous fait du bien à tous.
Vous en avez une lecture positive.
Bien sûr.
C'est comme tout.
En fait.
On peut avoir une lecture négative de tout.
Ouais, tu peux avoir une lecture négative de tout, tu peux avoir une lecture positive de tout. C'est ce que tu veux, c'est toi qui prends les choses comme tu l'entends. Hein. Mais non, nous, on a une lecture extrêmement positive, évidemment. C'est beau. Franchement, c'est beau. Moi, c'est depuis que je suis avec elle que je me suis vraiment. Que j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus en plus à ma religion. Hein. Et tu vois, c'est. Sans forcément rentrer dans les détails, ouais, c'est évidemment. Ça nous empêche pas de faire quoi que ce soit, en fait. Au contraire, je trouve que ça nous pousse de ouf, nous. Tu vois, la preuve, hein, tu vois, on n'est pas devenus des gens chelous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est obligé de se justifier quand tu dis que t'es
musulman. Oui,
c'est grave, hein. Mais tu vois, c'est grave, mais c'est la vérité, malheureusement. J'ai l'impression que dans pas longtemps, on va devoir être obligé de le faire. Mais en tout cas, ouais, je peux rien dire de plus à part que ça nous a fait du bien et puis que ça nous a permis d'essayer de rester les gens les plus simples possibles.
Ça se sent en tout cas.
On essaye, je te jure, on essaye. Franchement, en toute honnêteté, on essaie de pas se prendre la tête. Hein.
Vous avez eu un show en plus sur Click.
Oui, exactement, ouais.
HF
chez Mouloud, ouais, bien sûr. Magnifique.
Vous avez travaillé ensemble?
On a travaillé ensemble, bien sûr, ouais. Là, on a encore d'autres projets en commun qui vont arriver.
Ouais.
Donc, on est très, très contents, non? Avec Fadili, c'est toujours un bonheur de travailler avec Fadili. Parce que déjà, elle me fait rire de ouf. Hein, moi, c'est. Mais déjà, avant.
C'est des vraies vannes qu'elle te sort quand elle parle mal de toi.
Ouais, c'est une tueuse. Mais là, elle est en train de faire. Tu l'as vu son deuxième spectacle?
Non, pas encore, non.
Pas encore, ouais. Elle est en train d'écrire sur moi, elle est en train de me dégommer, là. C'est trop trop marrant. Elle est, elle est en train de me tuer.
Ça là. Va, tu le vis bien?
Ouais, super. Bah, attends, t'as vu comme elle prend cher, moi aussi?
Ouais.
Donc, c'est normal. Non, c'est normal, c'est normal. Franchement, c'est normal.
Déjà, tu dis qu'elle s'appelle Oumoul sur scène.
Putain. Ouais, je l'ai flingué, putain, je l'ai ficha. Mais ça va, elle, évidemment, c'était avec son accord. Hein.
Ça, j'espère
ah
que...
Oui, ah oui, sinon j'aurais pas fait. Elle a accepté.
J'espère que c'était avec son accord.
Et puis non, mais parce que, surtout moi je l'ai... Surtout que c'est un très bon prénom, Oumoul. Moi, je kiffe ce prénom, tu vois. Donc je dis ça, c'est pas comme si tu t'appelais Josiane, tu vois. Enfin, tu me diras... Désolé, les Josiane.
Hein, bisous, Josiane Balasco. Ouais, ouais.
Ah bah, Josiane Balasco. Bah, elle a tourné avec Josiane Balasco, on fait dire.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, elle a tourné avec Josiane Balasco. Magnifique.
En tout cas, si vous voulez voir Hakim sur scène, ça se passe à la Comédie de Paris.
Tout à fait.
Donc là, maintenant, c'est à 19h.
Là, c'est tous les vendredis, samedi à 19h.
Vendredi, samedi, ouais, ouais. 19h.
19h, pas 20h, 19h.
Puis quand le couvre-feu sera terminé, ça sera re à 20h.
Bah ouais,
si
je pense.
Si un jour on en sort. Peut-être qu'on n'en sortira jamais du coup.
Peut-être qu'on n'en sortira plus du tout. Hein. Qu'est-ce que ça pense, toi? Je sais pas.
Je sais pas non plus. Moi, ça me. Je sais pas. C'est très étrange, de toute façon, tout ce qui se passe.
C'est trop étrange ce qui se passe. Est-ce que, ouais.
Je veux dire, depuis le confinement, moi, je m'attends à tout.
Ah oui. Moi, je m'attendais même à un reconfinement.
Ah, moi aussi. J'étais là, bah, je suis prêt.
Ouais, je suis prêt.
Je suis dans ma bulle, allons-y. Voilà, retournons-y s'il faut ça.
S'il faut y aller, on y va.
C'est n'importe quoi, mais bon,
voilà. Ouais, c'est ce que je te dis, putain.
Donc, ça se passe à la Comédie de Paris. C'est dans le quartier de Pigalle. Ça s'appelle Super.
Ça s'appelle Super.
C'est comme toi.
C'est vrai. Ouais.
T'es super.
Ah, bah, ça fait plaisir, mec. C'est gentil. J'essaie. Toi aussi, t'es super. Je te le dis.
Un immense merci pour ce moment.
Merci
cool
à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À plus.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.